Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de votre fidélité. J'espère que vous passez un bel été, que vous vous reposez bien, que vous lisez un bon bouquin, ou alors si vous bossez, bah j'espère que c'est pas trop chiant, que vous mettez des sous de côté pour partir plus tard, à la mer, à la campagne. J'espère que vous n'êtes pas sujet à l'ennui, à la mélancolie, que vous vous sentez inspiré et que vous êtes en compagnie de personnes qui vous admirent et ne vous emmerdent pas et vous font pas de reproches et vous apprécient pour vos névroses. Moi, pour vous dire la vérité, ces derniers temps, bah, j'avais un peu perdu confiance dans le podcast. Je me disais, mais ça intéresse qui, les mecs que je veux ken? Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un petit message sur Instagram de DVDBRDADN. Salut Rosa, juste un petit mot pour te dire merci pour ton podcast, bonne suite. Et bah merci à toi, DVDBRDADN. Et donc je continue avec un deuxième épisode bonus de la saison 1, spécial Summer 2020. J'ai invité un nouvel ami, ma révélation humour du confinement, Thomas Poitevin, le créateur du génial compte Insta Les Perruques de Thomas. Si vous connaissez pas encore ce compte, abonnez-vous et remerciez-moi ensuite car vous allez rire, rire, rire. Mais vraiment, chaque vidéo est un petit court-métrage en soi. C'est trop précieux, tant de drôlerie, d'originalité, de finesse. Bon, et vous commencez à me connaître, je suis assez entreprenante. Enfin, j'aime m'entourer de personnalités qui m'inspirent. Donc j'étais allée déjà déclarer ma flamme à Thomas pendant le confinement. Je lui avais écrit sur Insta pour lui proposer un direct IG Live et on avait discuté une heure comme ça en rebondissant sur les commentaires des abonnés. Et j'avais craqué pour Thomas. Sa modestie, sa folie, sa fantaisie. Et donc j'ai proposé de venir dans le podcast pour qu'on ait une occasion de se voir en vrai, de parler plus longuement, d'apprendre à mieux se connaître. Et c'était génial. On a ri. Et mon projet maintenant est qu'on devienne encore plus amis. Qu'on parte en week-end, en vacances, qu'on boive des coups, qu'on travaille ensemble, qu'on écrive ensemble. C'est ça l'amour. J'aimerais développer un projet avec Thomas et que ça nous donne l'occasion de partir à la campagne en résidence ensemble pour écrire. Et enfin, bref, vous me direz, après avoir écouté l'épisode, si vous croyez en notre alchimie et si vous souhaitez le film de Thomas et Rosa.
Daniel Gilbert, François. Et alors, attends, on va faire un premier test pour c'est bon. Comment ça va, Thomas?
Ça va, Rosa, et toi?
Ok, super. Hop, je revérifie.
Attends, on va faire un premier test pour c'est bon. Comment ça va, Thomas?
Ça va, Rosa, et toi?
Ok, super. Ok, super. Alors, je t'ai écrit un petit poème, Thomas, pour commencer notre discussion. Est-ce que t'es prêt?
Ça a commencé.
Ça a commencé.
Ah merde. Ok. Ah bah, merci.
Alors, Thomas, trop de talent. Thomas et ses perruques. Thomas est trop drôle, écrit trop bien. Joue trop bien la bourgeoise, la babosse, le beauf, le vieux, les hommes, les femmes. Je pourrais décrire Hélène, Rico, Marie-Marion, Caro, Daniel, Laurence, Philippe, Marianne, Sébastien, Pascal, Lou, mais que dire de ces personnages géniaux à part... Oh mon Dieu, mais à côté de Thomas, Catherine et Liliane, c'est de la gnognotte, Lutz peut aller se rhabiller. C'est dire, Thomas met la barre très haut. C'est le meilleur. Bon, les perruques de Thomas, c'est le meilleur compte Insta. Et Dieu sait que je suis fan d'autres comptes, mais je crois que le niveau d'écriture, d'humour est vraiment inatteignable. J'aimerais savoir d'où te vient toute cette inspiration, Thomas. Qu'est-ce que tu lis? Quand et comment as-tu commencé à écrire? Est-ce que tu as d'abord commencé à observer les théâtreux, notre entourage, les artistes, puis les autres? C'est venu comment? J'aimerais qu'on revienne sur la discussion qu'on avait eue dans le live Insta pendant le confinement. Voler et s'inspirer du réel, des gens qui nous entourent, la culpabilité pour moi qui suis parfois, toi pas du tout. Enfin, j'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours émotionnel. Dans mon podcast, les mecs que je veux ken, je reçois pas mal. Disons que j'ai reçu quelques caricatures d'hétéros légèrement machos dans la vanne, un peu bloquées sur la question du sensible. Et je suis heureuse de recevoir mon premier invité homosexuel, car je pense que les femmes ont toutes un jour fantasmé sur leur ami gay, beau, intelligent et qui les comprend. Thomas, à quelle heure rêves-tu? Écris-tu sur un ordi, sur un carnet? Qu'est-ce qui te rend triste ou t'empêche de créer? Qu'est-ce qui t'angoisse? Aimes-tu les vacances? Thomas, je ne suis pas jalouse de toi, je te trouve merveilleux et au-dessus de moi, je trouve que tes vidéos sont bien meilleures que les miennes. Les mecs que je veux ken, toujours des mecs auxquels je me sens inférieure?
Voilà.
Ah, cette mimique finale.
Que les gens ne pourront pas voir.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Et je me demandais, est-ce que tu... tes fans, les gens qui t'écrivent tous ces commentaires, qui partagent les vidéos, ça a l'air d'être pas mal de femmes ou d'hommes sensibles quand même.
Oui.
Ouais.
Oh là là, faut que je me débloque là. Sinon, ça va ressembler à une interview de Charlotte Gainsbourg. T'as vu cette interview avec Claire Chazal ?
Non.
Hyper gênante.
Non, elle répond pas aux questions.
Elle répond à rien. Et en même temps, elle est hyper sympa, mais t'as Claire Chazal qui commence à
avoir des gouttes.
Oui. Alors attends, je pense à beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sensibles, beaucoup de gens que je ne connais pas. Je pense que tu as raison.
Et la tranche d'âge ?
La mienne, je pense.
Ouais, 35.
35, 45, 50.
Et c'est ça qui est cool et que moi je trouve rassurant, c'est que, en fait, justement, sur Instagram, t'as quand même beaucoup de jeunes et moi ça m'angoisse énormément en fait. Ça m'angoisse.
La jeunesse ?
Ouais, la jeunesse m'angoisse, les jeunes m'angoissent et le goût de la jeunesse m'angoisse. Je me dis, ah bon, bah alors autant que je m'en aille si c'est comme ça. Enfin, je trouve que, tu vois, tout ce qui est TikTok et humour de jeunes, etc., et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ça. Et moi, comme je me sens pas dans cette mouvance, je me dis, ah bon, bah alors j'ai pas ma place. Et quand je vois tes vidéos, je me dis, ah super.
Et moi, tu vois, j'ai lutté contre le format une minute. J'ai essayé de faire des vidéos d'une minute. Mm. Et en fait, j'ai besoin de 3-4 minutes. Mm. Et là, maintenant, j'accepte. Donc, je pense que je vais faire une vidéo de 8-10
ouais,
minutes.
Ouais, génial.
Vois, voilà, maintenant, ça s'est passé.
Ouais.
Mais je pense que. Et donc non mais Instagram et surtout TikTok, alors TikTok j'ai toujours pas compris comment ça marchait, mais j'ai compris que c'était hyper rapide, et du coup ça te pousse à un rapport à l'efficacité qui est assez terrible.
Il y a un petit côté sexuel, TikTok c'est vraiment les éjaculateurs précoces quoi, il y a vraiment ce truc de hop j'ai éjaculé, alors que tu vois c'est tellement court quoi et tellement agressif aussi, c'est ça, c'est toi le fait que tu aimes faire des vidéos longues, peut-être que ça témoigne d'une forme de sensualité que tu as également au lit où tu prends ton temps. J'ai vu que tes vidéos elles étaient passées de 1000 à 1500 à 2000 à 25, à 30 000, et maintenant ça monte jusqu'à 44 000 vues. C'est génial.
Ouais, c'est super.
Toi, tu arrives à... Là, t'es au stade de... T'es heureux...
Drop the mic.
Je ferme
genre... le compte.
What else?
Right to the top. Je suis hyper heureux.
C'est vrai?
Ce que je trouve limite bizarre, c'est que j'ai eu aucune mauvaise expérience sur Instagram. J'ai fait une fois une vidéo et que j'aimais pas trop, que quelqu'un a critiqué, c'était le mec qui a un accent québécois, un québécois en fait, et que j'avais à la fois beaucoup bossé et pas suffisamment, pourtant j'avais bossé avec une fille québécoise super qui m'avait vachement aidé, Manu Boileau, que je salue. mais je l'avais posté sans y croire complètement, et j'aurais pas dû, effectivement. Et il y a un Québécois qui m'a laissé un message, mais plutôt gentil, en me disant, c'est un peu cliché, c'est pas...
Oh. Non, mais attends, si on peut plus se moquer des Québécois, alors là, c'est la fin de l'humanité, parce que c'est vraiment les premiers dont on peut se moquer, je veux dire, parce que t'imagines, je veux dire, autant... Les Noirs, les Arabes, les Trisos, les Juifs, c'est compliqué. Mais attends, les Québécois, lâchons-nous sur les Québécois, tu vois. Je veux dire, sinon, vraiment, mais...
Oui, mais c'était un peu... Non, mais t'as raison, mais c'était un peu attendu. C'est-à-dire que c'était un mec vraiment très bonne humeur et un peu con-con, tu vois.
Mais oui, mais c'est moi, ça me fait déjà hurler de rire. Tu l'as supprimée, cette vidéo ?
Elle est toujours sur Facebook, je l'ai supprimée
sur Instagram.
En fait, il y avait un commentaire comme ça, un peu nuancé, mais... Non, c'est juste que j'en étais pas très fier.
Ok.
Et après coup, j'aimerais bien en faire une autre avec un Québécois hyper sérieux, hyper grave, tu vois, parce que c'est plus inattendu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, j'ai tendance à m'inquiéter quand tout va bien, donc je me dis à un moment, je recevrai un message de Daesh, enfin, parce que...
Faites des vidéos pour nous.
Que des bons retours, des bons contacts, des gens avec qui je discute un peu, que j'ai pas rencontré, d'autres que j'ai rencontrés, on s'est rencontrés comme ça. C'est que du bonheur.
Ah, c'est trop bien. Et donc, en fait, t'as commencé quand?
Je vape.
Vas-y, vape, je t'en prie, et bois ton café. Pour situer pour les auditeurs, en fait, on enregistre chez une amie de ma mère qui a un magnifique appartement de 300 mètres carrés. Je ne vais pas donner l'adresse, mais disons que c'est dans le 6e face au Luxembourg. Et la femme de ménage est là ce matin et on lui a demandé de faire le moins de bruit possible. Et parfaite transition pour embrayer avec l'argent et les bourgeoises. D'où te vient cette passion?
Ben, je viens d'un milieu bourgeois. Où j'ai pas croisé des gens aussi hardcore qu'Hélène, mais oui, à côté peinture de milieu. Et puis après, c'est sa façon de parler. Moi, je pense que j'ai été élevé à le mercier et tout ça.
Ouais.
C'est le plaisir de parler comme ça. Ouais. Génial, tu vois. C'est juste un plaisir simple. Après, je commence à. Je crois que j'ai un peu fait le tour d'Hélène. Et je l'ai quitté sur une note où elle est assez heureuse.
Oui.
Donc, à la limite, si je continue dans cette classe sociale-là, faudra que je trouve des choses un peu plus... Elle, c'était un peu un...
Ah, j'ai adoré le parcours d'Hélène. De son aventure avec le peintre pendant que son mari était en vacances au Pila dans la maison de sa mère. Et puis là, tout d'un coup, le fait qu'elle renoue avec son mari qui fait des brasses. Et on n'en savait pas, on n'avait pas d'informations sur les enfants d'Hélène.
Non.
Le fait que le fils soit gay.
Je pourrais rebondir sur ça. Ah,
absolument,
enfants.
Moi je suis très curieuse de ça.
Ah, c'est cool, t'as compris l'histoire de la crique.
Parce bien sûr.
Tout le monde
le
comprend pas.
Oh.
La crique près de la rivière. Non, j'ai dîné avec des amis hier qui pensaient que c'était ouvert, homme ou femme, quoi. La crique près de la rivière, c'est...
Mais c'est très clair qu'il est gay.
C'est l'inconnu de la crique.
Bien sûr, c'est l'inconnu de la crique. Et puis en plus de ça, elle se justifie. Après, elle dit « Mais non, mais si, c'est jeune, etc. C'est
exactement.
Frais. » Et ensuite, il veut se lancer dans la politique. Et tu dis « C'est bien. » Et on pense évidemment à toute la Macronie. Moi, j'ai pensé à tous les gays autour de Macron, quoi. Non ?
Ouais,
et
puis surtout dans la diplomatie.
Dans la diplomatie, bah, bien sûr, évidemment. Mais
pas forcément... Je sais pas pourquoi il y a autant de gays.
Dans la diplomatie, peut-être qu'historiquement, le fait que tu voyages et que tu sois seule, ça permettait d'être loin de leur femme s'ils étaient obligés de se marier et de se dire qu'ils avaient du temps libre pour eux.
Pour les payer avec les petits garçons, c'est...
c'est clair. mais résultat, ça, y a pas. Tu pourrais continuer. Et j'ai adoré aussi l'histoire de la fille en dépression, hypocagne, cagne qui se passe mal. C'est drôle, ça aussi.
Ouais.
On pourrait peut-être rencontrer... Ah, bah tu vois, il y a Macha, la femme de ménage, qui passe l'aspirateur. Je lui ai dit de pas passer.
Macha.
Elle a pas compris. En plus, elle parle mal français. C'est vrai que c'est... Il faut répéter quatre fois.
En même temps, c'est les meilleurs qui parlent moins bien français.
Absolument. De toute façon, on n'a pas envie d'engager un français. C'est vraiment humiliant. Mais tu sais, il faut lui dire... Macha, s'il vous plaît, pas l'aspirateur.
Est-ce que ça nous dérange tant que ça? Ça fait un habillage sonore.
C'est bon, bah ouais. Chers auditeurs, si vraiment elle se rapproche, j'irai glisser un mot. Voilà.
J'espère que je vais pas devoir vous faire les gros yeux.
Qu'est-ce qu'on avait dit? Il est 8h, je suis pas réveillée. Là, c'est l'heure du linge.
Et en même temps, t'es très bien habillée, t'es raccord avec l'appartement? Ou t'es tout le temps comme ça? Parce que c'est la première fois qu'on te voit.
Je vais avouer quelque chose, j'ai volé une chemise à la personne qui habite ici. En fait, je ne mens pas, mais je vole. Voilà. On peut pas avoir tous les vices.
Temporairement?
Non, temporairement, j'ai emprunté. J'ai une petite valise de vêtements à moi. Et puis là, ce matin, j'ai ouvert. Tu sais, quand t'es chez des gens riches, de toute façon, moi, tu peux pas m'empêcher. Je sais pas si la personne écoutera ce podcast, l'ami de ma mère, mais j'ai testé, genre, tous ces maquillages. C'est parce que t'as forcément tous des crèmes qui sentent bon. Et donc voilà, cette chemise en soie avait l'air belle et je l'ai mise pour m'inventer une vie de femme qui a des chemises en soie repassées.
Voilà. Oui, mais tu te barres pas avec?
Non, je vais pas me barrer
moi,
avec.
Moi, ce que je peux voler à des gens comme ça, c'est souvent des femmes qui ont un tiroir avec énormément d'échantillons de luxe.
Ah, oui.
Là, forcément, c'est pas... Enfin, t'en prends deux, quoi.
Ouais, complètement. Non, j'ai pas osé, il y a un échantillon qui me fait...
Nathan t'envoie un mail.
Ça se passe très mal, tu sais. Une lettre d'huissier. Par rapport à l'échantillon... Mais là, dès qu'on parle, ça me donne de l'inspiration. Je me demande si maintenant, à chaque discussion que t'as, à chaque rencontre, t'as une espèce d'application bloc-notes dans ta tête qui se met en route sur est-ce que ça t'éveille des idées.
Ah, pas du tout.
Non.
Je le regrette d'ailleurs. Non. En fait, quand je travaille, même quand je... Parce que chercher des idées, c'est un travail. Je sais pas pour toi, mais moi, je m'aménage des temps où je me vide et je cherche.
Tu te vides, tu te masturbes.
Non. Si, je me masturbe, mais non, c'est un autre temps. Pourquoi je disais ça?
Excuse-moi.
Attends. Je pense à la masturbation. Non, j'ai pas genre l'oreille magique. Non, je suis pas du tout comme ça.
Bah, c'est encore mieux. Ça veut dire que toi, c'est vraiment le fruit de ton imagination. Hein.
J'ai plus l'impression. Après, il y a toujours un truc qui vient de la réalité, une expression ou même un soupir ou un truc. Enfin, une attitude à un moment que j'ai vu, ouais. Si. Mais tout le délire, par exemple, autour de la vie d'Hélène. Les autres, c'est des situations. C'est des situations où j'invente. Mais je regrette un peu ça. J'ai essayé ça, le fameux café.
Ouais.
Et le calepin.
Ouais. De te mettre dans un café, d'écouter les
voix. Café, d'écouter les gens. Et j'ai fait ça deux fois.
Non, moi, j'arrive pas à ça, écouter les gens.
Faut bien tomber, quoi.
Ouais, faut bien tomber. Et la plupart du temps, c'est chiant, quoi. Non, moi, c'est. Là, tu vois, ce soir. Je vais boire un café avec une fille et je sais que je vais me mettre en mode dîner de con. C'est horrible, mais ça fait 10 ans que je l'ai pas. C'est horrible.
Attends, en mode dîner de con, c'est quoi?
Bah, c'est-à-dire, tu sais, le principe du dîner de con, c'est qu'ils font semblant de croire à un con qui sont son ami, qui
sait faire. Oui, c'est ça. Mais c'est ta copine, du coup.
C'est pas vraiment ma copine. C'est une fille qui a désespérément voulu être ma copine. Il y a 15 ans, on avait fait un stage d'été au cours Florent ensemble. Et ensuite, pourquoi? Et elle habite en Belgique et on se revoyait à peu près tous les 2 ans. Et en fait, à chaque fois qu'on se revoyait, elle aussi voulait devenir comédienne. Et à peine, elle me demandait tout le temps des choses. Elle me demandait, en fait, j'ai un pari. Est-ce que je peux dormir chez toi? Est-ce que ensuite tu pourras m'accompagner, me donner des tickets de métro parce que j'ai pas de ticket de métro? Et ensuite m'expliquer comment on devient actrice.
Je l'ai perdu au ticket de métro.
Voilà. Tout le temps, il fallait lui fournir des services et lui donner des choses. Et donc elle était très intéressée. Mais en plus de ça, elle m'appréciait vraiment, sauf que moi, son côté...
C'est pathologique.
Pathologique.
C'est un manque d'amour.
Ah, pas de... Voilà.
Dans les jeunes années.
Ah, certainement.
Chez certaines personnes, c'est après, ils demandent.
Ouais, elle demandait, et même, je me souviens, et je l'avais dit à ma mère, et même une fois, ma mère l'aimait pas, et une fois, je lui avais prêté un de nos parapluies, puis elle était retournée en Belgique avec, elle nous l'avait pas rendu, et ma mère était là, elle a piqué le parapluie! Ouais.
Goutte d'eau, quoi.
Ouais, la goutte d'eau, ça avait été ça. Et résultat, j'avais essayé de mettre un peu de la distance.
Moi, j'ai une copine.
Non, je t'en prie.
Mon copain a eu une copine comme ça.
Mm-hmm.
Qui se mettait dans des histoires pas possibles.
Ouais. Genre.
Coup de fil, coucou, est-ce que je peux dormir chez toi? J'étais chez un mec.
Ouais.
Un mec qui était censé éditer mon livre. Mais en fait, il a été trop chelou, j'ai eu très très peur, je sais pas où dormir ce soir, et t'es là, genre, va pas chez ce mec, quoi.
Ouais, c'est clair.
Enfin, tout le temps des histoires comme ça.
Ouais.
Mais attends, c'est horrible si elle écoute le podcast.
Je me suis habituée à ça, j'ai plus de... Je veux dire, je pense pas que... Déjà, les gens qui me connaissent écoutent assez peu le podcast, c'est plutôt les gens qui me connaissent, même pas suffisamment... pour écouter une heure de... Et tant mieux, c'est pour ça que je les aime. Les gens que je connais qui m'aimeraient... ça veut dire qu'ils m'aimeraient trop et il y aurait un déséquilibre parce que bah, moi, je peux pas leur donner cet amour en retour. Mais donc, c'est... Mais non, je crois pas. Et puis là, donc bon, et donc, ça fait des années qu'on s'est pas vus. Elle m'envoie un message sur Messenger. Elle aimerait qu'on se revoie. Alors, entre-temps, elle avait arrêté le métier d'actrice. Elle était devenue danseuse. Danseuse d'art contemporain en Belgique. Elle avait rencontré un gars, elle m'a envoyé des photos de leur appart magnifique, j'étais très contente pour elle. Et puis là, elle vient, mais elle avait toujours un truc un peu comme ça, de loin, avec moi, de « je vois que tout va bien dans ta vie, Rosa, quelle chance, je t'embrasse », un truc un peu triste et angoissant. Et là, elle me dit « j'ai un enfant, Rosa, voyons-nous », en mode « j'aimerais te présenter mon fils », ou je sais même pas si elle a dit si c'était un fils ou une
fille.
C'est
un peu ta Brigitte, quoi.
Ouais.
Brigitte, c'est la... J'ai, tu dis ouais, tu peux pas connaître.
Bah oui, non, j'ai pensé Brigitte Macron et j'ai dit ouais, sans.
Non, c'est avec mes des vieilles copines, on a une blague. C'est-à-dire qu'on a personnifié le bad et la dépression par une nana qui s'appelle Brigitte. Et en fait, du coup, ça te permet de localiser physiquement, géographiquement, le bad, là, le côté dépressif de la vie, tu vois. Et c'est genre, t'es à une soirée. Ça se passe bien. Et puis tiens, j'ai vu Brigitte au fond de la salle. Elle m'a fait « Coucou, tu viens me parler ?»
Ah oui, tu vois, c'est ça.
En fait, c'est ton côté dépressif qui t'appelle.
Mais complètement.
Personnifié par cette meuf. Et c'est c'est déclinable à l'infini. C'est genre... Noël, c'est la fête de Brigitte, quoi.
Ah bah c'est sûr.
C'est ta fête préférée.
Ouais.
Elle est au taquet. Si t'es pas là, elle te harcèle pour que tu viennes à Noël.
C'est vraiment la loose, le pathétique.
Elle te dit des phrases comme ça, Brigitte. Il te dit « Oulala, tout se passe bien pour toi, c'est super, quelle chance, 3 petits points. »
Oh ouais, exactement. Et là, elle commence déjà, et donc je lui ai dit que cet après-midi, je pouvais pas, que je viendrais en fin d'après-midi. Elle m'envoyait un message hyper long en mode « Ne viens pas trop tard, car ensuite, c'est l'heure du dîner pour Lou, donc je pense que c'est son fils. » Et Lou a besoin de beaucoup d'attention.
Rosa.
Mais j'y vais, mais moi j'y vais en mode bloc-notes, j'y vais en mode dîner de con. Voilà. En fait, c'est comme ça que je rentabilise le temps, parce que je me...
Oui, oui, là, je comprends.
Là, tu... Voilà.
Mais c'est pas un peu, ouais.
Bah, c'est-à-dire qu'en même temps, je peux pas me mettre en mode bloc-notes avec des gens que j'aime parce que je culpabilise, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et j'aimerais, là, tu vois, j'ai ma meilleure amie, metteur en scène, Adrienne, qui a eu un bébé, et j'aimerais faire des blagues sur le fait d'allaiter parce que je l'ai vu allaiter avec sa machine à pomper le lait comme une... Enfin, ça fait très vache, et j'essaie de trouver des blagues en mode meuh-meuh.
Attends, moi, ça m'est arrivé de faire ça, mais je préviens les gens.
Et ça passe?
Ouais, si t'es délicat, à moins vraiment d'avoir repéré un truc qui ferait mal si tu sortais machin, mais si j'étais avec quelqu'un que j'ai repéré, c'est marié 2 fois, je crois. Je préviens la personne, je l'appelle.
C'est non, moi aussi.
Peut-être que je devrais pas. Hein.
Non, si t'as raison, il faut.
T'es arrivé de faire ça?
Ça m'est arrivé dans le spectacle de faire des blagues sur mes amis d'enfance, Laura et Lucie, qui sont avocates d'affaires, et ensuite d'extrapoler et de parler de leur mariage, parce que ça commence comme ça. On raconte que elles se sont toutes les deux mariées. Déjà, c'est mes deux amies d'enfance qui sont toutes les deux devenues avocates d'affaires et elles viennent de se marier, l'une avec un ingénieur chez Porsche et l'autre avec un chirurgien dentiste. Et c'est un peu pour mettre en parallèle genre la grande réussite sociale de leur vie par rapport à la mienne qui est un peu la loose. Et ensuite, c'est ça le thème du spectacle. C'est moi, ma recherche d'amour qui fait Brigitte. Et coucou, c'est Brigitte.
Viens.
Tu cherches l'amour.
Non, non, reste pas avec les autres, viens me parler.
Ouais. Et d'ailleurs, quels sont tes projets, toi, d'écriture pour le cinéma ou c'en est où?
C'est ton projet. C'est un peu touchy pour moi d'en parler parce que c'est un peu dur en ce moment. Ouais. C'est un peu dur. Déjà parce que j'ai fait beaucoup fonctionner mon muscle imaginatif ces derniers temps, et là je crame un peu, il faut que je réactive. Et puis en parlant d'âge, moi je suis très très angoissé et je vais avoir 40 ans, et il y a des moments où je me dis il y a plein de trucs qui se passent, c'est ta dernière chance, mec.
Non.
C'est now or never.
N'importe
donc,
quoi.
Donc, je me mets des pressions comme ça.
Mais alors déjà, tu ne le fais pas du tout physiquement. Moi, je t'aurais vraiment genre donné 32 ou 33.
Ah, merci.
Mais vraiment, tu fais hyper, hyper... Oui, ça se voit que le contour des yeux est travaillé.
Ouais, non, mais ça a été... J'étais... on me prenait... Quand j'avais 18 ans, on me prenait pour un mec de 35. Parce que j'avais une espèce de gravité, je m'habillais comme un vieux et tout. Et après, j'ai rajeuni. Et ça ne m'a pas servi dans le métier de comédien.
Ah ouais?
Ouais. Parce qu'on voit quand même que... Enfin, on sent quand même que je n'ai pas... que j'ai mon âge en me donnant beaucoup moins. Et du coup,
Tu rentrais dans aucune case?
Je rentrais dans aucune case. Les papas, ça marchait pas. Les jeunes, ça marchait pas.
Moi, en même temps, le métier de comédien, je veux dire, on rentre jamais dans aucune case jusqu'au jour où on rentre dans toutes les cases. Moi aussi, on a sorti
jusqu'au
ce truc-là.
Où tu rentres dans la tienne.
Dans ta propre case. Moi, on me disait, t'es trop grosse pour faire la meuf principale.
Non, on t'a dit ça?
Ouais. Mais t'es trop jolie pour faire la bonne pote. Donc, tu rentres dans aucune case.
Ah ouais. C'était pas des films passionnants non plus.
C'était des trucs télé, mais souvent on m'a dit ça, ou souvent on m'a dit ouais que j'étais prise pour cette pub parce que j'étais... Quand enfin je réussissais, on me disait ouais bah t'es dans la case girl next door, c'est-à-dire t'es jolie mais approchable, t'es jolie mais les femmes ont pas peur de toi. Enfin toujours ce truc de vouloir... Mais ouais, non, il y a souvent eu ce truc de merde.
Pourquoi tu passes encore des auditions?
Ouais, j'en passe un peu, ouais, là, en ce moment.
Je trouve ça tellement dur.
Oh, tellement dur. Tellement dur. C'est très chelou. Mais je pense que là, toi, tu vas bientôt plus avoir besoin de passer d'audition.
Mais non.
Si, mais bien sûr que si. Je te le dis, hein. Moi, alors là, je sais déceler...
j'ai le nez.
Non, mais... Voilà. Ouais.
Je t'avais raconté, là, oui, j'en avais parlé, ça, pendant le live, de la directrice de casting qui m'a dit... je passe un casting, genre, à 22 ans. J'étais encore mal dégrossi à l'époque. Je m'étais fait opérer de la mâchoire, j'avais un énorme problème. J'étais un peu bouboule et tout. Mais je commençais à savoir jouer, donc je commençais à savoir à passer des trucs. Et t'as une directrice de casting déjà qui faisait pleurer. Je rentre dans la salle et son assistante est en larmes. Et je sens qu'il y a une énorme embrouille avant que j'arrive. Je passe le truc, c'était pour une pub, il y avait vachement de texte et tout. Et la nana vient près de moi à la fin. Elle me fait un moment de film américain, tu vois. Elle me fait un hug et elle me dit dans l'oreille, Thomas, c'était vachement bien. Mais pour toi, ce sera à 40 ans, ok?
Waouh. J'ai eu le même moment.
Ah, c'est vrai.
J'ai eu le même moment avec une agente à Cannes, au Festival de Cannes. En fait, mon père produit des films d'auteur, des films d'art et d'essai. Enfin, il produisait notamment beaucoup de films étrangers et des films chinois. Donc, il a eu plein de films en sélection à Cannes, mais qui ne lui ont jamais apporté de thunes. Papa, on va dire la vérité.
Bah, c'est pas le but avec ce genre de films.
Non, je t'en prie. Bah, ça serait bien que... Non, mais il y a quelques personnes qui ont vu ces films et on les remercie.
Mais je veux dire, le but, c'est pas faire de l'argent.
Non, bah, c'est que ça soit vu quand même un peu.
Que ce soit acheté, qu'une carrière, quoi.
Exactement. Et je cherchais un agent. Et je demande à mon père de m'aider. Je disais, papa, le producteur, tu pourrais pas m'aider à trouver un agent quand même? J'avais 15 ans, mais je savais depuis que j'avais 8 ans que je voulais être comédienne. Et donc à Cannes, on avait eu un rendez-vous avec une agente. Et donc j'avais même pas 15 ans, je crois que j'avais 14, qui m'avait regardée de haut en bas et qui m'avait dit, moi. Elle avait dit à mon père devant moi, elle avait dit, c'est déjà un peu trop tard, j'avais 14 ans. Elle avait dit, de toute façon, elle avait dit, ouais, pour Rosa, c'est maintenant, ou ce sera à 30. Mais les jeunes femmes, s'il ne se passe pas quelque chose entre 15 et 20 ans, ensuite, elles ont un long couloir entre 20 et 30.
Ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas faux.
Mais elle était quand même hardcore. Je pense que j'ai un nom à te sortir.
Vas-y, dis.
Non.
On se le dira après, hors conversation. T'as raison.
Ignoble. C'est ignoble, mais en même temps, pas faux. Quoi.
Et pas faux. Et de toute façon, c'est toujours les trucs ignobles, pas tout à fait faux, qui te font le plus souffrir. Parce que si ça avait été ignoble complètement ça m'aurait pas fait de mal. Je me serais dit, elle est folle.
Bien sûr, pour moi, c'était pareil. Je me l'étais vraiment encaissé. En même temps, je me disais, elle a sûrement pas tort.
Mais tu rigoles, 40 ans, c'est parfait. C'est le meilleur moment. Tout est résolu, tout est compris, tout est devant.
J'ai une interview de Sharon Stone. Il y a 15 ans.
Les stars d'Hollywood vieillissent.
40 ans, c'est ma grande aventure de femme. Oui, et puis écoute, on verra, moi je suis très content de ce que j'ai pour le moment. J'ai une copine aussi qui avait, alors pour finir ce genre d'histoire, qui avait, elle avait genre 17 ans, et elle avait, son père avait un restaurant. Avec plein de gens qui venaient, parfois des gens de cinéma, machin, et c'était des amis de son père, enfin des amis de restaurant, quoi, c'était très... Et gros producteur français, et elle voulait déjà être actrice, donc je sais pas, elle avait 16-17 ans, et elle va le voir, ils discutent de cinéma et tout, le truc, le mec vraiment un nabab, tu vois.
Wow.
Je sais plus son nom, mais c'est un des gros gars, quoi.
Mmh.
Et le mec lui dit un moment très franchement, écoute, c'était en, je sais pas, 99-2000, écoute, si tu veux être actrice, tu le seras, mais sache qu'il va falloir coucher. Mais il la mettait en garde.
Mmh.
Il lui disait, c'est comme ça que ça marche. Mmh. Et c'est pas...
Faux.
Et
ah
c'est
non.
pas terrible. Mmh. Parce que c'était un ami de son père. Donc, en fait, il la mettait en garde. Il lui a dit... Et après, il lui a sorti une 15 noms.
De mecs dangereux.
De nanas qu'on couchait avec.
Ah bah oui, mais ça, et c'est une certaine époque avant MeToo, c'est clair. Et ça continue encore, évidemment, continue, en France, ça continue largement, bien sûr.
Je trouve que c'est une belle histoire, quand même, de mettre en garde. Pas mettre en garde, mais de la prévenir.
Oui, de la prévenir.
Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Parce que malheureusement, c'est comme ça que ça marche.
Ah bah bien sûr, ouais. Voilà. Ah non, mais moi, c'est pour ça que mon père voulait pas que je sois comédienne et voulait pas me présenter d'agente. C'est parce qu'il pensait que... Enfin, il voyait des actrices, il disait, c'est un métier de pute, c'est un métier de toxico, c'est un métier de... Ouais, il disait, je t'en supplie, fais hippocane-cagne, fais la grègue, soit... Il aurait aimé que je fasse, que je sois quand même littéraire, que je fasse, tu vois, l'ENS, de la philo, et puis que la fémis, et que je finisse par faire un film vers mes 32 ans sur la prostitution à Bruxelles, et tu vois, et justement. Et que j'ai la palme d'or, et qu'ensuite je me retire, et que je décide plutôt de me consacrer vers, j'en sais rien, tu vois, l'étude du Talmud.
Ouais, un parcours sécurisant, quoi.
Ouais.
Moi, je comprends.
Mais non, mais après, oui, c'est...
Après, ça, si tu as les tenants, les aboutissants, et que ça te convient, comme dit, et que tu n'as pas... Enfin, c'est quand les gens savent pas que ça devient des victimes. Mmh. Tu te fais littéralement baiser, quoi.
Ouais.
Mais oui, j'espère que c'est moins comme ça. Peut-être, quand même.
C'est moins, c'est beaucoup moins comme ça. Depuis 2-3 ans, ça a évidemment beaucoup, beaucoup évolué pour les femmes, et même pour les femmes elles-mêmes, dans... notre façon à nous de mettre des limites et de comprendre que ça passe pas, ça c'est déplacé, ça c'est du harcèlement, ça c'est pas quelque chose que j'ai envie d'entendre, et de pas dire il est relou, il est encore bourré, et non, en fait je vais pas laisser passer ça. Donc même de nous mettre les limites de je crois que je vais pas accepter, et mettre un mot dessus, non je pense que ça change énormément, ouais. Mais pour revenir sur la question de l'âge, c'est fou que ces angoisses-là, ce que tu dis du cap de la quarantaine, moi je viens d'avoir 31 ans et pareil, je me sens cuite, ça y est, je me dis les carottes sont cuites, et en plus moi je veux des enfants, donc je me dis, tu vois, tous les deux jours je me dis comment mettre des ovocytes en Espagne, etc. Enfin, tu vois, donc en plus il y a cette angoisse-là, mais il y a aussi justement quand je vois sur Insta les gens qui cartonnent à 24 ans, je suis là en mode, tu vois. En plus, eux, ils ont un truc à dire. Et en même temps, je me dis que ce que toute la société veut mettre en œuvre pour montrer les gens jeunes et cool, c'est tout ce qui m'angoisse le plus. Enfin, tu vois.
Mais est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu as un super objectif? Parce que ça, je trouve que ça rassure beaucoup.
Ouais. Moi, je restais créative, en fait. C'est ça, c'est pouvoir continuer à s'exprimer.
On dirait un stage de scénario. C'est pas un objectif, ça.
C'est quoi
je sais pas, mon personnage il attend quoi.
C'est quoi toi ton super objectif?
Il veut continuer à attendre, c'est ça son objectif. J'aimerais tellement faire un truc sur l'espace de
scénario. Ah non, mais il faut absolument que tu le fasses, c'est tellement ça. Oui, j'ai fait un stage de scénario et c'est impossible sur les notes d'intention et les machins et les. Non, ça c'est ta première partie.
Moi,
j'aimerais
bien faire ça. J'ai pitché et on m'a dit que c'était pas assez. Ça parlait pas assez de monde.
Tu vois, si j'étais milliardaire, en fait, là, je te produirais direct, en fait, Thomas. Et j'empêcherais n'importe qui de te contredire ou de te freiner. Tu vois. Oui, et si jamais des gens te diraient, non, c'est pas ça, je me dirais, ça veut dire que c'est exactement ça. Genre là, je mettrais direct 1 million sur ta tronche. Et je dirais, lâche-toi, fais-toi plaisir et fais tout ce que tu veux.
Ce serait génial que tu sois avec moi.
Ah non, mais vraiment.
Vous avez une table? Non, monsieur, on est fermé. Rosa?
Mais en fait, c'est tellement cassant tout le temps. Tu vois, justement, les pros qui te mettent des bâtons dans les roues à te dire, moi, pendant des mois, j'ai voulu développer une série sur le stand-up. Et pareil, j'ai eu des pros qui m'ont dit, non. Jamais pour. Enfin, arrêtez. Parce que.
Non, après, t'as des bons producteurs et t'as aussi des bons producteurs qui font avec le marché, quoi.
Mais il n'y a pas de marché.
C'est une super nana, mais elle m'a dit, là, notre besoin, c'est un truc qui parle à beaucoup plus de gens.
Non, ils sont cons. Il n'y a pas de truc qui parle à beaucoup plus de gens. Ils sont cons et fous.
Il n'y a
pas de marché, en fait. En fait, c'est à eux de créer le marché. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent proposer au public et pas ce que le public veut. Il n'y a rien de plus fantasmagorique que ce que le public veut, quoi. C'est pas vrai. Puis je veux dire, c'est ce que tu lui sers, quoi, ce qu'il consomme. Pour ça que. Non, moi, il faut absolument que. En fait, qu'il y ait 5 films de tout.
Je t'en parlerai, peut-être le faire ensemble.
Ah, bah grave.
Parce que ça coûte rien, en fait. Tu mets les gens dans une salle et tu fais une série sur un stage de scénar. Normalement, mon film, ça parle d'une nana un peu cassée. Alors, ça parle pas du tout de moi.
Là, tu peux faire plein de personnages.
Il y a plein de personnages, évidemment.
Parce que ce qui est génial dans ces stages, putain, on va me piquer l'idée. Ah, je balance ça sur ton podcast.
Non, on va la déposer à la SACD.
On va la déposer tout de suite, on y va après. C'est que t'as à la fois des gens qui sont un peu dans le milieu, qui font le stage de scénar, et t'as genre un coiffeur de 70 ans qui s'est dit oh, « Je vais essayer de raconter ma vie dans un film, il y a un stage de scénar, j'y vais. » Et t'as vraiment une brochette complètement hétéroclite.
T'as l'actrice qui écrit son scénar.
Ouais. T'as le mec qui veut faire Intouchable.
Ouais, t'as le mec
qui veut faire 9 millions d'entrées. Tu sens que c'est un mec intéressant, mais son scénario, c'est un peu...
C'est un peu de la merde.
Je veux faire 9 millions d'entrées.
Et il faudrait qu'en plus ce soit...
T'as un auteur complètement...
Barré.
T'as toujours un mec qui veut faire de la science-fiction.
Oui.
On l'a compris depuis 30 ans.
Donc en France, on fait pas ça.
C'est impossible en France.
Et qui est là, mais si, il faut faire du genre.
Voilà, c'est ça le genre. Et t'as l'intervenant pendant 3 semaines qui va essayer de le faire dévier.
De faire le drame bourgeois classique.
Voilà, c'est ça. Et qui arrive pas.
Il faudrait que ce soit dans une résidence d'écriture, à un endroit où ils sont tous dans le même lieu.
Ouais, c'est ça. Non, faut faire
ça coûte rien. C'est juste faut des putains d'acteurs et des improvisateurs.
Ouais.
Ça serait bien Jonathan Cohen, je trouve tellement fort.
Ouais.
Jonathan Cohen, il pourrait faire celui justement qui veut faire le gros succès.
Ouais, complètement.
Tu vois, il pourrait faire un gars qui a fait genre un an de fac parce qu'il était fan de Star Wars, puis ça a pas trop marché.
Ouais,
puis ensuite, genre, il a fait une école à papa, puis ensuite, il a fait d'autres trucs, puis il revient.
Ouais,
un gars.
Il parle tout le temps de l'Amérique.
Ouais, grave.
Putain, quand tu vois Carpenter, quand tu vois des mecs comme
même
ça.
Même pas Carpenter, genre avec des refs de sourd et à l'américain.
Ouais,
tu
Michael
sais.
Bay.
Ouais, voilà.
Tiens, Michael Bay, il pose ses couilles sur la table, quoi.
Ouais, grave. Y a qui d'autre, toi, comme acteur que t'adores, que t'admires ?
En France ?
Ouais.
Alors, il y en a beaucoup, mais j'ai besoin d'un temps de réflexion.
Blanche Gardin, elle pourrait jouer dedans.
Non, mais après, des acteurs talentueux de notre niveau de notoriété, on connaît beaucoup.
Ouais, il y en a un paquet. Blanche Gardin, elle pourrait très bien faire cette espèce de... qui était sous anxiolytique pendant 10 ans...
Qui fait un film
c'est
sur une histoire d'inceste, elle dit tout le temps c'est pas mon histoire, c'est pas ton histoire, et en même temps elle pleure un peu quand elle raconte son scénar, c'est hyper gênant,
grave.
Et tu peux faire aucune critique dessus parce que tu sais que c'est son histoire. Ouais, je trouve que ton personnage dans ton arc narratif numéro 2, il stagne un peu.
Ah ouais?
Il a stagné.
Trop drôle. Et il faudrait qu'en fait ils soient tous super méchants les uns les autres quand ils se critiquent leur scénario, sauf une qui serait genre la plus forte du stage et tout le monde la mettrait sur un piédestal et personne n'oserait critiquer son projet, qui serait genre le meilleur projet.
Ouais, qui est déjà produit en fait.
Qui est déjà produit, on sait pas pourquoi elle est là.
Elle est juste là pour faire chier.
Pour foutre la rage.
Elle est déjà en sélection à la quinzaine des réals, quoi.
Elle a obtenu toutes les bourses, tous les machins.
Ouais, t'as toujours une nana passive-agressive.
Ouais. Mais tu sais, pour débloquer par rapport au... Moi aussi, l'écriture et tout, il y a vraiment des périodes très angoissantes, mais parfois s'entourer, en effet, et trouver des collaborateurs, c'est un... Parce que parfois, on peut pas tout sortir de sa tête, quoi. Il y a vraiment un besoin de ping-ponger. On est creux, on est vide. Enfin, c'est...
Et puis, il faut faire ça, et il faut... Je sais pas, moi j'essaie de me faire des petites techniques où je me vide, où vraiment quand je commence à flipper, je me dis oh, c'est pas drôle, c'est pas. J'essaie de faire le vide et de me mettre à regarder des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire. À faire vraiment le touriste pendant 2 heures, mais activement. Tu vois, à lire des trucs, même des journaux, ou regarder la télé, ou. Des trucs qui sont. pour te réactiver, pour te désamorcer l'angoisse de pas réussir à créer. Mmh. Et au bout d'un moment, tu vas voir un truc qui va te faire rire ou qui va t'intéresser, un mmh. micro truc, et ça va relancer la machine. Quoi. Mmh. Tu vois, des petites techniques de déblocage comme ça. Et mais il faut pas parler de génie, quoi.
Non, et il faut pas se mettre la rate au courbouillon, faut pas être trop exigeant.
Moi, parfois. Regarder, prendre,
et puis voir un peu aussi les choses moins bien qui se font, dans le sens où. Parce que c'est sûr que si tu vois, si tu te compares que à la leçon de piano, ça peut être un petit peu handicapant de mettre la moindre lettre, mais si tu as tant de trucs, parfois, voilà, c'est ça, c'est. Moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est me dire, bon, bah. T'es pas la meilleure, mais t'es pas nulle. C'est horrible, mais j'ai l'impression que si...
ouais, moi aussi, je me dis.
Tu vois ?
Ouais. Ça m'est arrivé plus trop maintenant, parce que j'ai... ma crise de la quarantaine, je l'ai fait il y a 3 ans, je pense. Mais ça m'est arrivé de me faire des listes de gens qui ont réussi après 40 ans.
Mmh. Oh, bien sûr.
Ça fait un bien, ça.
Mais oui.
Ça fait un bien. Et j'ai oublié leur nom, mais genre qui...
Moi, ce que je me fais comme liste, c'est les gens qui ont percé, puis ensuite, il se passe plus rien pour eux.
Ah ouais, la liste perverse.
Je me dis, tu sais, je suis vraiment cette codasse, parfois bitch, qui dit, et elle, on n'en entend plus parler. Hein. Je me dis, bon, tu vois, mais c'est vrai, faut relativiser. À chaque fois, moi, quand j'ai à partir de 15 ans, je regardais tous les ans les Césars et je me disais, l'année prochaine, c'est moi qui suis meilleur espoir, l'année prochaine, c'est moi qui suis meilleur espoir. Bon, et puis à un moment, c'est horrible, quoi. Puis à un moment, tu te dis, bah non, mais les Césars, c'est Polanski. Non, mais en plus, à un moment, tu te dis, bon, et je sais pas qui était César il y a 10 ans. Enfin, et puis c'est pas. Mais tu m'as pas répondu, c'est quoi, toi, ton super objectif alors?
Moi, mon super objectif, c'est d'écrire, de réaliser un film.
Ok.
Ça va prendre vachement de temps.
Mm.
Mais ça me. Je trouve que ça cadre.
Ouais.
Ça cadre.
Mais voilà. Grave. Mais tu vas. Et en plus de ça, t'as ton spectacle que tu veux faire aussi.
Oui, je vais faire un spectacle, je pense, l'année prochaine. J'ai une résidence en octobre. Enfin voilà, ça commence à se mettre en place pour l'année prochaine. Et alors j'ai vu que Jonathan Lambert, que j'adore, avait fait un spectacle qui s'appelait Les Perruques.
Ah.
Il porte des perruques. Donc ça c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et
Les Perruques de Thomas.
Ouais, mais est-ce qu'il, en fait, je sais pas si je vais mettre des perruques.
Ouais, peut-être pas.
J'avais déjà fait un spectacle où je jouais des personnages, mais il y avait trop le quatrième mur.
Mm-hmm.
Moi, ça, c'est pas que je veux absolument parler au public, mais j'étais vraiment, mais moi, je me sentais un peu seul à la fin du
spectacle.
C'était vraiment genre, je veux pas vous parler. Et, faut que je trouve un truc, quoi. Une façon de le faire qui me sied. Non.
Tu l'appelles Les Perruches?
Ouais.
Avec un oiseau, une grande perruche sur l'affiche.
Le truc un peu naze. Toi, c'est avec Axel Lutz qui a fait Dieu, qui a fait. Genre du cheval.
Tu viens de dire Axel Lutz. Hein.
Ah, merde. Alex Lutz.
Ouais, Alex
Lutz. Ah, j'ai un pote qui s'appelle Axel. Alex Lutz. Tu fais un truc avec une perruche un peu foireuse. C'est comme un petit qui te monte sur le bras.
Ouais.
Ça pourrait être pas mal.
Ça pourrait être pas mal, ça serait bien.
Ouais.
Faudrait qu'il y ait une vraie perruche sur scène.
Et toi, ton spectacle, c'est celui que tu jouais, mais tu le changes, non ?
Non, pas trop.
Non.
J'en avais écrit un premier qui s'appelait Ma première fois. J'ai beaucoup changé avec le deuxième, Tenir debout. J'ai repris que vraiment deux petites vannes.
Ouais.
Et là, ce Tenir debout, je l'ai joué que d'octobre à avant mars, mais avec aussi la période des grèves et des machins, et les samedis. Donc non, je vais le jouer.
Il commence vraiment sa vie maintenant, quoi.
Il commence vraiment sa vie maintenant. Mmh. Après, faut que je modifie, faut que je retravaille le début, mais je me sens aussi un peu vide sur l'écriture stand-up. C'est très. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui, je sais même pas si je serais capable de l'écrire. Je me dis heureusement qu'il est là. Je crois que je l'ai écrit à vraiment un moment où j'avais une plume d'autodérision, où j'avais vraiment envie de me défoncer ma race.
Ouais.
Non, je sais pas.
Mais j'imagine que quand tu fais ce travail-là, tu peux parler des étapes. C'est-à-dire que là, tu peux rajouter une petite partie où tu dis que t'as plus du tout envie de te défoncer aujourd'hui. Du coup, ton spectacle est un peu compliqué
à faire. Ouais. Je sais pas si je peux le mettre dans le spectacle, mais il faut que je. Après, je crois que c'est toute l'énergie de l'écriture de ce spectacle. Le premier, le spectacle, l'énergie, c'était vraiment parler de la solitude. Et le deuxième, c'est vraiment, je suis tombée très amoureuse d'un mec que j'ai essayé d'oublier. Et c'est ça le truc, c'est vraiment comment tu oublies quelqu'un et les étapes pour oublier quelqu'un. Et ensuite, c'était toute une partie sur la sexualité. Et quand tu fais l'amour avec quelqu'un que t'aimes, évidemment, c'est génial. Mais c'est sûr, quand tout d'un coup, t'es plus amoureuse, amoureux ou amoureuse, mais que tu veux quand même te remettre au lit, et que résultat, tu fais l'amour avec des gens dont t'es pas amoureux, et t'es over-lucide sur tous les trucs qui te dégoûtent ou qui se passent mal, et résultat, pouvoir parler de ça et analyser ça. Donc c'est sur le... Tout... Il y a une partie du spectacle, c'est sur... Moi qui couche avec un mec qui a envie de faire pipi, et c'est ça
et
tout le truc.
Et t'as déjà été bloqué parce que t'avais un super sujet sur l'intimité et en fait tu n'arrivais pas à faire rire avec.
Oh oui, 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 oui. Oui, oui, oui.
C'est ça. Moi j'ai essayé de faire du. Enfin, quand je suis sorti de ce premier spectacle, je me suis dit, je ne parle pas au public, mon spectacle n'a pas été acheté, je vais faire du stand-up. Et j'ai essayé et c'était sordide ce que j'écrivais. C'est que je n'arrivais pas à. C'est pas mon truc, j'arrivais pas à faire ce que tu fais, ou Blanche Gardin, enfin tu vois, c'était juste... Même moi, en me relisant, j'avais envie de me... J'avais mal, quoi. J'arrive... Le rebond de l'humour n'arrivait pas, quoi.
Ah ouais, c'est... Écoute, non, bah c'est... Là, oui, il y a... moi, ça me fait plus... Ça me fait... Les expériences sexuelles qui se passent mal, c'est quelque chose qui me fait rire. C'est quelque chose qui me fait rire, parce que je trouve que c'est quelque chose de... d'universel et d'intime et en plus je me dis si je parle pas de ça j'ai du mal à me dire comment je vais connecter avec les gens parce que j'ai un truc inconscient horrible où je pense que je me dis parfois je vois les publics et alors c'est horrible mais bon mon podcast c'est le lieu pour le dire parfois je fantasme les publics comme des gros beaufs incultes et je me dis non mais ça ils vont pas comprendre. C'est horrible.
Il y a une carrière qui s'arrête.
Voilà, c'est ça la fin. Non, mais c'est ça la fin, c'est-à-dire que parfois.
Non, c'est parce que t'as peur d'eux. T'as cette espèce de fantasme.
C'est pas ça. C'est que je me dis que alors peut-être c'est le plus non parce que peut-être c'est juste que j'ai l'impression que je suis une horrible personne qui va trouver que tout le monde est con. Et je vais dire, est-ce que je vais monter dire sur scène que je trouve que tout le monde est bête et dire aux gens, mais vous aussi, si je me mettais à vous parler, je vous trouverais bête. Peut-être, pourquoi pas, ça serait rigolo. Mais c'est juste, j'ai l'impression que la façon de camoufler ça, cette noirceur, le fait de m'ennuyer avec les gens, de les trouver bêtes, de les trouver cons, de les trouver incultes, de les trouver chiants, de trouver que leur vie sont chiantes. Et j'ai envie parfois de... Mais puis je pense que, même si je suis pas riche ou quoi, j'ai un vrai mépris social d'éducation. Parfois, les gens, quand je suis sur Tinder et qu'ils me disent qu'ils habitent à Rueil-Malmaison, c'est fini. J'ai plus envie de leur parler.
Ouais.
J'ai plus envie de parler à des gens qui habitent à Rueil-Malmaison. Et c'est horrible. Et je me dis, mais je peux pas, tu vois, dire ça sur scène.
T'as senti avec un gars qui t'a Rueil-Malmaison.
J'ai fait un date récemment avec un gars. Et je me suis remotivée à aller sur Tinder. Et sur ses photos, il était pas mal. Évidemment, dans la vie, il ressemblait pas à ses photos. Et tu sais, en fait, il mettait des alinéas, il écrivait, puis il sautait une ligne, et puis ça m'a donné envie de le buter. J'étais là, genre, mais pour qui tu te prends? On est plus en six.
Oh merde.
Ouais. Et en fait. Et...
C'est comme ton spectacle, ça?
Non.
C'est hyper drôle.
C'est
vrai que c'est énervant.
C'est énervant, mais enfin, tu vois, je suis pas ta cliente. Et en fait, c'était ça son problème, c'est qu'il gère un portefeuille de clients. Et ça, voilà, et c'est fini pour moi. Je peux pas apprécier des gens qui gèrent un portefeuille de clients. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte toutes les entorses que tu fais dans la vie pour sourire aux gens que tu méprises. Enfin, j'ai envie de te jeter dans la Seine. Mais oui, il était comme ça. Et en fait, il m'a eu parce que, donc, il y avait marqué banquier sur son profil. Et moi, je me suis dit, s'il est extrêmement riche, ça passe. Parce que je trouve qu'un banquier extrêmement riche, il y a quelque chose qui s'aligne, qui s'apaise. Mais le pire, c'est le banquier pas si riche. Et là, t'es là genre, bah non. Alors à ce moment-là, je vais être avec un artiste pauvre. Je vais pas être avec un banquier qui n'est pas riche. C'est ridicule.
Mais tu vois, là, tu fais de l'écriture. En fait, tu rencontres ces mecs-là pour...
Oui, complètement.
Pour vivre des choses.
Ouais. Et il m'a dit non, mais j'ai fait des études de droit et je voudrais peut-être travailler dans, tu sais, le droit qui attaque les banques. Et j'étais genre, ah! Un banquier de gauche, pas mal, mais en fait pas du tout. Il gère du patrimoine, etc. Et il parle un peu, il est malin. Et il a fait ça pour me dater parce qu'il avait capté que j'étais une conne de bobo, de merde. Et tu vois. Et il est arrivé, tu sais, avec sa petite veste et son petit machin et son petit, tu sais, il ressemblait à Macron. Puis il avait ce côté un peu, tu sais, toujours à sourire. Pas un moment où il décroche, c'est peut-être
ça. Atroce.
Ouais. Et ça m'a vraiment donné envie de mourir. Mais non, peut-être, en fait, je sais pas. Peut-être que je pourrais vraiment aller dans ces descriptions-là et pas toujours revenir. Mais c'est... Non, non, c'est il faut... Toi, ton spectacle, ça sera vraiment du personnage, ça sera des...
Ouais. Ouais. Moi, je parlerai jamais de moi. Tu sais. C'est pas mon truc, je trouve pas ça intéressant. Mais le stand-up, ça je trouve ça assez passionnant comme ce que ça a à voir avec l'autofiction un peu.
Ouais.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc c'est des questions assez passionnantes. Et puis tu... C'est une... Enfin, je veux dire, ça c'est une forme qui fait pas de cadeaux, quoi.
Non.
Et moi, je suis un peu... Ça me fait un peu chier le succès de certains stand-uppers qui n'ont aucune tenue sur scène, en fait. Et je suis très admiratif des autres, les hommes et femmes qui te... En fait, je trouve ça hyper physique quand tu le fais vraiment, tu tiens une salle. Ouais. C'est une forme complètement épurée comme ça, où tu tiens toute une salle, tu travailles sur des micro-trucs, à mon avis, pour de jeu. Et les autres qui, tu vois, qui sentent l'aftershave et qui, ils sont en costard, ils bougent pas d'un cil, ils se baladent sur scène en racontant des blagues, c'est consternant, quoi.
Ouais. Non, c'est sûr que parfois, il y a pas...
Mais je trouve que ça t'apprend... voir quelqu'un seul sur scène avec un micro, ça t'apprend presque plus de choses sur l'actorat que de voir des gens jouer des trucs. Je sais pas comment dire. Parce que t'es dans un truc tellement radical que tu vois ce qui marche, ce qui marche pas, comment tu t'adresses aux gens, comment tu les récupères, comment tu les perds.
C'est vrai qu'il y a un truc d'efficacité, mais après, justement, c'est très dangereux aussi. C'est-à-dire que ce côté, la musique du stand-up de ta-da-da-ta-ta, trois lignes punch, ta-da-da-ta, trois lignes punch, ça fait qu'il y a peu d'espace pour l'envolée lyrique et pour la poésie qu'il peut y avoir dans le seul en scène ou dans le one-man show, où tout d'un coup, en fait, c'est au bout de trois minutes qu'il y a un grand rire et puis ça peut se terminer sur d'autres choses, etc. Ouais, ouais. Et c'est pas, et le fait de sortir de ce joug du rire, donne plus d'espace aux détails et voilà, il faut...
Mais après, si tu racontes des choses passionnantes, tu peux éviter les 3 heures par seconde, non?
Oui, bah Blanche Gardin pousse vers ça. Ouais. Elle fait des grands passages où tout d'un coup, elle fait monter une sauce et puis elle arrive, elle finit par une punch, elle met des mini un peu à droite à gauche, puis elle en finit par une grande à la toute fin.
Ouais.
Mais elle arrive à sublimer en fait le fait de faire des blagues en racontant vraiment quelque chose. Moi, ce qui parfois me bloque un peu sur les plateaux, parce que tu sais, on passe les uns derrière les autres, parfois je suis la seule nana, puis je vois des mecs qui font des one lines, c'est-à-dire c'est vraiment des blagues genre et là les gens rient et je me dis moi j'arrive avec un truc tellement plus storytelling narré et perso que ça va être difficile. Ensuite, maintenant, je me dis, oula, faut qu'ils adhèrent au fait que c'est d'une certaine façon moins efficace. Mais moi, ce que je fais me paraît d'une façon plus moderne. Quand eux, je les entends faire leurs blagues, pour moi, la blague est trop écrite, je trouve qu'il n'y a pas la magie de... j'ai envie d'accéder à un truc secret que je ne serais pas censée entendre. Là, je vois un truc très classique, quoi. C'est le retournement. Mais après... Après, le seul en scène, le jeu, ce que toi tu vas faire, ça va être génial aussi. Mais il y en a très très peu qui sont capables. Très très peu. Et François de Brouwer, son seul en scène est génial. Mais
lui, il raconte une histoire. Moi, ce sera des sketchs. Hein.
Ouais.
Juste que je veux trouver la bonne forme et je joue des personnages.
Ouais.
Mais il est fort, ce mec.
Ouais.
Mais j'aimerais, là, je réfléchis à un truc, enfin, ça va servir à ça, la résidence. J'aimerais être en personnage. En fait, j'aimerais faire du stand-up.
Ouais.
En personnage.
Ouais.
En recréant des situations de vie.
Bien sûr. Mais ça va être génial, tu sais, faut que tu vois
le. En la fiction, mais en m'adressant à quelqu'un. Donc, dans le sketch, je m'adresse à ma copine ou à un vieux. Ou c'est Caro qui essaye de faire l'amour avec un mec, tu vois. Elle
tu parles au public en vrai.
Ouais. Mais oui, mais est-ce que tu as vu le premier spectacle de Eddie Murphy? Attends, c'est Hilarious or Delirious? C'est très homophobe et misogyne, ouais. Mais c'est du génie. C'est extrêmement drôle. Faut passer la barrière de c'est les années 80 et genre.
Ouais, ouais.
Ouais. Mais attends, j'essaye de retrouver le titre. Ah bon, moi je retrouverai, je mettrai. Ouais. Mais. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est l'un des spectacles de stand-up que j'ai vu le plus joué de tous, où il y a des moments de sketch en fait, où il raconte une histoire, mais ouais, alors
au début,
il joue quand même beaucoup, ouais. C'est-à-dire qu'il va raconter un barbecue avec ses parents et il joue son père au barbecue qui est l'homme de la maison parce qu'il fait son barbecue. Puis ensuite il parle de quand il est enfant et que il y a the ice cream truck, tu vois, le camion le à glace qui vient et comment il pète les plombs quand il est enfant à l'idée de et donc il joue l'hystérie de ça et ça dure et ça dure et ça dure.
Il raconte une histoire, il y a des moments de jeu dedans.
C'est pas une histoire, c'est
où il joue un personnage qui raconte le barbecue. Et que le petit a pété les plombs quand, tu vois.
En fait, c'est des bouts de moments où Eddie Murphy se rappelle de. Enfin, il a une émotion, il a une colère, ou il a un souvenir, ou ça c'est beaucoup de. Quand même beaucoup sur l'enfance. Alors, de temps en temps, il y a son rapport aux femmes où il dit elle me saoule, je la claque et tout, mais c'est très drôle. Enfin, je veux dire, c'est tellement personnel et on est toujours dans son émotion. Et après, quand il raconte l'histoire, à un moment dans l'histoire, il se met à jouer. Il se met à. Mais il n'y a pas de cohérence entre eux. Il n'y a pas un premier acte, deuxième acte, troisième acte. Il n'y a pas une évolution. C'est un espèce de long truc comme ça. Et ça fonctionne. Et c'est vrai que. Moi, c'est ce que je trouve libérateur dans le stand-up, c'est se libérer de l'histoire avec un début, un milieu, une fin. Où je trouve que c'est parfois. Où je trouve que c'est plus joli d'avoir une espèce d'essai, d'avoir un moment de, en fait, tu d'avoir une espèce de, une personnalité, une personne, mais après, ça se trouve, tu vas révolutionner le stand-up avec ton spectacle, c'est-à-dire que tu vas faire du, ce seront tes personnages qui feront du stand-up.
C'est l'objectif. L'évolution. oui, ou alors des situations dans la vie où j'aime bien parler dans un micro. Enfin, peut-être pas forcément maintenant. Non, mais sur scène, je trouve que c'est un gros support, quoi.
Ouais.
Puis ça te permet de jouer des toutes petites choses.
Ouais.
Je sais pas, faut que j'essaie de recenser des moments dans la vie où t'es avec un micro, justement. Donc, un mariage.
Idée?
Ouais, vas-y.
Ton scénario sur la résidence d'écriture, tu pourrais aussi t'en servir, t'en roder comme support de spectacle. C'est-à-dire que, en fait, c'est.
Ouais, je pense à faire un sketch là-dessus. Ouais.
Ou alors, le spectacle, c'est cette résidence d'écriture et tu joues tous les personnages.
Ouais, peut-être, ouais.
Et à ce moment-là, ou alors trouver un contexte, que ce n'est pas forcément la résidence d'écriture de scénario, mais ça peut être. N'importe quelle et une vacance, une maison, je sais pas, une réunion de famille et chaque personnage vient parler ou interagit. J'ai une situation de base qui permet et en fait, sauf que tu joues tous les acteurs qui pourraient se rencontrer et chacun a leur histoire personnelle, chacun a son drame, chacun a son moment et avec des lumières ça et comme ça peut faire une cohérence au tout et, ou pas. Ou alors c'est pareil, mais je sais pas, mais et comme ça te permet de roder ton scénario de long métrage.
Mon long, je sais déjà sur quoi il sera.
Ah. Pas sûr de... Le viol.
Ouais. Le viol, un animal.
Le viol,
pas évident à financer.
Là, je comprends la productrice qui t'a dit. Le viol sur les animaux. Oh, tu parles, je suis sûre que ce serait. Tu rigoles.
C'est une comédie populaire. Tu sais, les films qui avaient un nom de camping, turf, la faute de SPA.
Tu rigoles, c'est une bête d'idée. Un mec qui viole des animaux. En fait, un road trip, on se fait ça.
Tu fais toutes les SPA de France.
Un détective qui le suit à la trace.
Avec, tu fais un peu un buddy movie, t'as le détective et un assistant vétérinaire qui vérifie les faits.
Qui traque les traces du viol sur des écureuils.
Et là, gag.
Et là, on est sur du gag. À chaque scène, il y a un gag. Ouais, ça serait bien, putain. Non, mais tu vois, hein, faut qu'on se voit plus souvent parce qu'à chaque fois, on brainstorm.
Mais ouais, c'est un bon concept aussi, les pitch foireux. Ou alors les suites de merde, genre la pianiste 2. Ça, au Caraïbe ou.
Avec Isabelle Huppert ou.
Ouais. Et Annie Girardot en image de synthèse. Comme dans The Irish Man.
Ah putain.
Ouais.
Ouais, non mais.
C'est
grave.
C'est une suite qui marche pas quoi. 37-2-2.
Mais.
Impossible. Germinal 2.
Germinal 2.
Back in the mine.
Back in the mine. Ah ouais, grave. Et pour finir, attends, mini 15, il faut que je te libère, mais je voulais te poser quelques dernières petites questions de fin. Rapprochons-nous bien de l'iPhone.
Petit questionnaire de Proust.
Voilà, exactement.
Non, c'est ça.
Oui.
Non.
Mais si, moi je suis très ringarde là-dessus, j'adore le questionnaire de Proust.
D'accord.
Là, c'est mon côté. Ma grand-mère était gaulliste et
elle. Je me suis régalé, il y a quelqu'un qui a lancé ça sur Instagram.
Ah ouais,
parlé, non?
Non.
Et c'était des jeunes comédiens, pour la plupart, qui répondaient au questionnaire de Proust. Et c'était incroyable.
Non, mais c'est horrible quand tu te le mets à toi-même et que c'est narcissique. Mais après, si c'est quelqu'un qui... Je trouve que les questions de Proust sont bien pensées. Et si tu les poses à quelqu'un dont t'es vraiment curieux de la réponse... Mais il faut... La qualité que tu préfères chez un homme?
Non, mais à part les qualités, genre basiques, genre gentillesse, humanité, humour, machin... ce qui m'impressionne chez un homme, je peux le reformuler comme ça, c'est des hommes qui sont à l'aise avec leur place. Et je pense, ça me fait penser aux comédiennes et aux comédiens. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de, j'ai toute une théorie là-dessus. Je pense que, j'espère que je vais bien le formuler. Je pense que les femmes ont été utilisées, genre quasiment les trois quarts de l'histoire de l'humanité. Donc les femmes n'ont pas de problème. Quand t'es acteur, t'es utilisé. T'es une marionnette en gros, dans tes rapports professionnels. Et si tu prends une place sereine là-dedans, tu développes ta propre puissance. C'est un truc très paradoxal. En gros, plus tu es utilisé, par exemple, par un metteur en scène bienveillant, plus tu vas assurer comme acteur ou comme actrice, sauf que tu dois accepter cette place et être complètement chill avec, tu vois.
Bien sûr.
Et j'ai souvent vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédiens qui sont des super comédiens, mais en fait qui ne supportent pas d'être comédiens. Mmh. Parce que ça leur fout en l'air un truc. Ils ont la virilité mal placée, en gros.
Mmh.
Et donc j'admire les mecs qui, comédiens ou pas, qui ont un rapport très, très... très sain et très serein,
disponible
dans leur place d'homme, quoi. Je sais pas si je me suis bien expliqué.
Non, si, je vois tout à fait. Et la qualité que tu préfères chez une femme, la même chose ou tu penses que c'est...
Oh, les femmes. Mais les femmes, c'est ma passion. D'ailleurs, j'ai ce problème-là, c'est-à-dire que je pense pas que les hommes soient moins intéressants que les femmes. Mais j'ai plus de mal à écrire des personnages masculins intéressants parce que du fait de leur difficulté à prendre leur place, les hommes cachent beaucoup plus et sont beaucoup plus, apparemment, beaucoup plus comment dire, monolithiques.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et la qualité que je préfère chez une femme, c'est... Oh, je pense que c'est l'humour, quand même.
Le principal trait de ton caractère?
Je suis créatif.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Leur gentillesse, leur bienveillance. La gentillesse, la bienveillance, voilà, la conscience de l'autre. Chez mes vrais amis.
Ton principal défaut?
Je suis paresseux.
Oh, j'arrive pas à y croire.
Si, je suis paresseux.
3 vidéos par semaine.
Non, là, je suis à une vidéo. Non, mais je suis paresseux. Et si je développe, si je précise ça, je bovarise. C'est pour ça que j'ai mis ça. Je rêve beaucoup. Je suis tout le temps en train de rêver, en fait. Et d'imaginer ce que la réalité pourrait être au lieu de la vivre.
Mais oui. Ton idée du bonheur?
cet appartement.
C'est
non.
Clair.
Non, non, mon idée du bonheur, c'est des flashs, hein, c'est des images, c'est... Comme je viens d'un endroit qui était près de la forêt, ce serait une maison près de la forêt. Mon amoureux, un chien. Et là, on tombe dans la pub pour le jambon d'Aoste. Enfin, je suis désolé, mais c'est mon idée du bonheur, c'est la pub pour le jambon d'Aoste.
C'est un couple gay, la pub du jambon d'Aoste ?
Ah non, non, c'est plein de gens autour d'une table, dans une très belle maison,
mais
genre star.
Mais il n'y a pas de pub où on voit un bonheur, où on voit... Il n'y a aucune pub où on voit deux hommes être fous amoureux, et c'est ça l'idée du bonheur qui est vendue aux gens.
Oh, ça a dû arriver, ça a dû être tenté, là.
Ah ouais ?
Ouais, ouais.
Bah, pas suffisamment, quoi.
J'en sais rien.
J'ai pas la télé.
Ou de femmes, moi non plus.
Non, non, je vois pas beaucoup de pubs télé, mais je crois que ça a été tenté.
Mais quand c'est tenté, ils en mettent jamais. C'est jamais un couple, c'est genre plein de couples. C'est genre, on va mettre un Renoir, une Eurasienne, un couple gay,
oui.
Tu vois, c'est genre un Benetton. C'est un mode où vous inclut finalement dans. Ouais. Tu vois, c'est jamais. Une pub en mode acheter ce vélo et genre un couple gay qui fait du vélo et on les voit s'embrasser et ensuite il y a la marque de vélo. C'est dommage quoi. Les gens achèteraient plus de vélos.
Ouais.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
Le chantage affectif sur des enfants.
Autre idée de scénario, j'ai envie de dire.
De comédie populaire.
De comédie populaire.
C'est le deuxième film, le carton du premier sur le viol d'animaux.
C'est un gars qui fait que du chantage avec. Il est suivi partout.
Et ça s'appelle, vu que c'est une comédie populaire, ça s'appelle Papa, arrête, trois petits points.
Ton état d'esprit actuel
plutôt heureux. Et là, j'essaye de... J'ai du mal à écrire, donc je suis un peu angoissé. Mais plutôt heureux, oui, je suis plutôt heureux.
Ta devise favorite pour finir ?
J'en avais une, mais c'est... Alors, ma devise très longtemps, c'est « la vie est dure, alors moi aussi ». Mais c'est plus vraiment le cas.
Ça te va pas du tout, en plus.
Non, ça me va pas du tout, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé ponctuellement.
Pour qu'un personnage dise ça.
Ouais, la vie est dure, alors moi aussi. Ma devise, je sais pas moi, la devise favorite. J'essaie de sortir un truc intelligent.
Non, mais en plus, c'est vrai qu'on ne fait plus de devises. C'est un questionnaire du début du XXe siècle où les gens parlent avec des devises, mais c'est vrai que maintenant.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai de sortir un truc que m'a sorti ma psy, mais qui est très vrai. Soyez l'enfant que vous auriez aimé. Non, soyez l'adulte que vous auriez aimé avoir près de vous quand vous étiez enfant.
Oh, wow!
Pas dégueu.
Super. On va finir là-dessus, c'est magnifique.
C'est beau.
Ouais. Bah, merci beaucoup, Thomas.
Merci, Rosa.
Bye.
Bye.
Et voilà, c'était le deuxième épisode bonus de la saison 1 de mon podcast avec Thomas Poitevin des Perruques de Thomas. J'espère que ça vous a vraiment plu, que vous avez ri avec nous, que ça vous a détendu, voilà, que ça vous a changé les idées, que vous allez bien, que vous vous apprêtez à passer une excellente journée ou excellente soirée. Moi, de mon côté, j'ai toujours envie de continuer ce podcast. Je trouve ça très cool comme exercice. Et je réfléchissais justement, est-ce qu'il fallait que je fasse quelque chose d'un peu différent pour la saison 2 ? Est-ce qu'il fallait que j'ai des invités différents ? À un moment, je me disais... J'arrête les humoristes, je prends des rappeurs, mais je sais pas si j'ai aujourd'hui le niveau de notoriété qui me permettrait d'avoir Roméo Elvis dans le podcast ou d'avoir l'homme pâle. Et je sais pas s'il faut qu'il y ait un thème particulièrement. Je pense que c'est bien de continuer avec, voilà, un peu au hasard des rencontres et de la vie et des opportunités. Après, oui, on me dit beaucoup, il faut que tu fasses les meufs que je veux ken, et je le ferai parce que en fait, je rêverais, mais je me dis, en fait, si je fais les meufs que je veux ken, ce serait dans le but d'avoir Blanche Gardin, et Blanche Gardin le fera pas, et résultat, je suis dégoûtée à l'avance, et donc je me dis non. Mais il n'y a pas que Blanche Gardin, il y a plein de femmes que je rêverais de, voilà, évidemment, d'interviewer. Mais je me demande s'il faut pas attendre que les mecs que je veux ken s'agrandissent plus pour lancer ça. Je sais pas. J'aimerais aussi lancer les couples que je veux ken. Ça serait ouf. Parce que j'adore la notion de power couple. Et d'inviter un peu
les couples de stars. Ça m'a toujours fait marrer, en fait, le phénomène un peu, pas Jennifer Aniston et Brad Pitt, mais plus genre Maya Rudolph et Paul Thomas Anderson, genre les créateurs. C'est quoi le quotidien des créateurs? Comment ils arrivent à gérer ça? Est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas? Comment ils forment une alliance? Donc ça, j'aimerais bien, et j'aimerais bien avoir Fadili Camara et Hakim Djemili, par exemple, ça serait très cool. Donc ça, c'est un projet, mais après, ouais, c'est du temps, il faut voir à la rentrée, pourquoi pas, il faut mettre ça en place. Je me demande s'il faut lancer ça au même moment que Les Mecs que je veux ken en parallèle, ou peut-être attendre que Les Mecs que je veux ken, ça s'essouffle et lancer ça ensuite, ou peut-être que ça s'essoufflera pas et tout lancer un peu en même temps. Ouais, écoutez, c'est des projets. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours. Moi, j'ai vraiment besoin de vos réactions. Évidemment, si vous pouvez les mettre sur Apple Podcasts, sur iTunes, vous savez que ça m'aide et que c'est très cool. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais si vous voulez tout simplement m'envoyer un petit DM sur Insta, ça me fera toujours très plaisir, ça me motivera et ça me donnera envie de continuer. Donc, je compte sur vous pour m'envoyer Maxi Love. Et puis voilà, moi je vous remercie d'être au rendez-vous, d'être fidèle et on va continuer ce podcast ensemble, on va le faire grandir avec toujours des invités plus merveilleux. Bisous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.